Bonjour et bienvenue à tous nos amis motards. Vous êtes bien sur Radio Campus, l'émission des motards, tous les dimanches de 11h à midi. Et aujourd'hui, nous sommes le dimanche 3 février. Et comme chaque début de mois, nous recevons notre ami Guy Dafédé. Bonjour Guy.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Luc.
Tu vas donc venir nous parler des actualités de la Fédé. Je crois qu'on va parler de l'éthylotest.
L'éthylotest et le brassard.
Voilà.
En fait, c'est le même combat. Finalement, on avait abandonné définitivement le dispositif réfléchissant. Là, l'éthylotest s'est reporté sine die, c'est-à-dire sans date. Donc, c'est de bon aloi pour nous, on va dire.
On développera un petit peu le sujet tout à l'heure. On parlera également du nouveau permis moto.
Hein, ça patine un petit peu, c'est normal. Ça glisse.
avec notamment un nouveau service que propose la Mutuelle. Pour savoir quel véhicule pouvoir conduire avec... Et puis on parlera également des bons chiffres de la sécurité routière.
Il faut le dire quand même.
De temps en temps.
Ils n'en font pas trop de pubs. En général, dans l'autre sens, il y a beaucoup plus de pubs.
Étonnant. On a également donc toujours, parce qu'on est notamment le premier dimanche du mois, notre ami Christophe de Motomag, correspondant Motomag. Bonjour Christophe.
Bonjour à tous.
Tu vas donc nous présenter le sommaire du dernier Motomag. On a déjà en kiosque, je crois.
L'édito, tout à fait, qui est sorti il y a une semaine, et donc l'édito du numéro de février avec les nouvelles machines, l'actu qui sera largement développée par Guy et sur lequel Motomag revient, et notamment la Mutuelle des motards, puisqu'en fait Eric Marot apporte des précisions justement sur les catégories de moto et les vides que j'évoquerai concernant un certain nombre de points pour lesquels il faut mettre en garde donc les usagers de certains véhicules qui pourraient se trouver dans une situation assez inhabituelle. Voilà.
Tout à fait. Ensuite, nous aurons notre ami Jean-Michel Lys, dit Lamiche, en direct de l'enduro du Touquet, qui nous fera un point sur la situation. Il sera notamment sur le parc des machines. On aura également une interview réalisée par notre ami Gilles, qui intervient également régulièrement sur ses ondes de Radio Campus. Une interview d'un pilote remarquable, qui s'est d'ailleurs très distingué au Paris-Dakar et qui, sans aucun doute, aujourd'hui encore, fera quelque chose de brillant à l'enduro du Touquet. Et puis nous aurons, et bien sûr, à la programmation musicale et à la technique, notre ami Laurent Rodier. Bonjour Laurent.
Take care of you. Answer and then it's gone.
Vous êtes bien toujours sur Radio Campus. Nous allons donc retrouver notre ami Guy qui va nous parler du nouveau permis.
Alors voilà, donc vous savez tous que depuis le 19 janvier de cette année 2013, le nouveau permis de conduire est en application et doit être mis en œuvre. Et visiblement, il y a quelques dérapages. Alors si vous avez suivi l'actualité, vous avez peut-être remarqué qu'il y a eu grève des inspecteurs. Il y a une quinzaine de jours, ça a duré une semaine. Alors pourquoi ? Principalement le manque de formation par rapport à ce nouvel examen. Il citait notamment les inspecteurs la difficulté pour eux de mettre en œuvre la pratique de la mesure de vitesse sur le nouveau parcours. Et donc il disait que sans formation, ils allaient peut-être être beaucoup focalisés sur l'utilisation de l'appareil et non sur ce que l'élève, ou le candidat au permis fait. Donc ça, c'est un des cas. Nous, on met aussi avec eux un problème de formation sans contrôle de qualité, s'assurer que la formation est bien adaptée et que les différentes moto-écoles sont bien dans le cadre de ce nouveau permis et appliquent bien et donnent bien les bonnes consignes. Donc voilà. Et puis, très concrètement, on en discutait un peu hors antenne, se pose un nouveau souci, en fait, c'est l'adéquation entre la machine et le permis, sachant qu'une machine peut se trouver une année conforme et une autre année, le même modèle d'une autre année peut apparaître difficile. Alors la mutuelle a mis en place quelque chose et donc c'est l'occasion peut-être d'en parler avec Christophe qui disait là qu'il avait étudié un peu et tu citais un cas particulier.
On retrouve en fait dans le numéro de Motomac de ce mois-ci une interview de Eric Marot qui est le responsable classification de la mutuelle des motards et qui donne deux exemples. Pour la catégorie 125, en fait, le rapport poids-puissance qui peut faire changer de catégorie donc une moto. Et donc, à ce moment-là, la statistique chez la mutuelle des motards, c'est 2700 sociétaires qui sont concernés, qui n'auraient plus l'âge requis pour pouvoir donc remplir les conditions d'utilisation de leur moto 125 dans les bonnes conditions.
C'est-à-dire que leur permis serait plus valable, quoi, c'est ça ?
Alors, c'est pas le permis, c'est la couverture. Oui, c'est effectivement l'assureur qui ne couvre plus à partir du moment où la classification de la moto ne rentre plus dans l'application du permis. Et il y a une deuxième catégorie de personnes concernées, ce sont ceux qui ont moins de 21 ans au 19 janvier, qui ont acheté un MP3, enfin un 3 roues plutôt, de catégorie 300 cm3 et plus. Alors c'est surtout les MP3 LT qui sont visés, les 300, 400 et 500 cm3. Et donc ceux-là, s'ils n'ont pas 21 ans au 19 janvier, ne peuvent plus conduire leur MP3 parce qu'ils n'ont plus le permis requis pour cela. Donc là, il y a un éclaircissement qui a été demandé par la mutuelle des motards et qui est resté sans réponse.
D'accord. Okay.
Enfin, à la date de la parution du magazine. Peut-être que la réponse est arrivée depuis.
Alors, pour répondre aussi à ces petits soucis de machines en fonction du permis, je pense notamment au nouveau permis A2 qui limite la puissance à 47,6 chevaux, soit l'équivalent de 35 kW. Et donc, pour répondre à ces difficultés, la mutuelle a mis en place une base de données. Alors, avec votre carte grise, vous tapez le numéro de série, la cylindrée,
les références de la machine, en fait.
Le modèle, etc. Et donc, vous avez comme ça ensuite le permis type que vous devez avoir. Qui correspond en fait à la machine. Et si on prend par exemple l'exemple du monocylindre du Yamaha 660 XT, les modèles 2012 sont en dessous des 35 kW, donc vous pouvez la conduire sans problème. Par contre, les modèles 2013, eux, elles ne posent plus.
Extraordinaire.
Formidable.
Ça ne complique pas.
Donc avant de prendre votre machine, maintenant, allez sur la mutuelle des motards, tapez vos références.
C'est effectivement la bonne solution. Ce qu'il faut savoir, c'est que les constructeurs ont homologué des véhicules pour être éligibles au A2. On voit des fabricants donc, qui ont sorti des modèles spécifiques dédiés. Alors pour les modèles anciens, il y en a qui ont carrément laissé tomber. Hein, et donc ils sont de ce fait hors du champ d'application du nouveau permis. Mais surtout, la grande avancée en augmentant, comme tu le disais, la puissance requise pour les premiers permis de 34 chevaux. Alors 34 chevaux, c'est 25 kilowatts. Mmh. 47,6 chevaux, c'est 35 kilowatts. Hein, c'est la norme réglementaire maintenant. Donc pour ces usages-là, eh bien, il y a 500 versions différentes de motos qui sont éligibles. Et donc ça laisse quand même pour le jeune public de 18 à 24 ans la possibilité de trouver la moto pour faire sa première main sur ce qui est d'ailleurs l'objectif de la mutuelle des motards, de faire progresser en fait l'expérience par l'acquisition de motos d'apprentissage, mais déjà pour se faire plaisir jusqu'à 35 kW.
On peut déjà bien se faire plaisir hein, jusqu'à 35 kW. Musique.
One sky, one beer. I say, hey, Mr. Bartender, come here. Want another drink and I want it now. The girl, she gone, she been gone tonight. I ain't seen the girl since night of full last. Wanna get drunk and get her off my mind. One bourbon, one sky, one beer. Sit there drinking, getting stoned. Yeah, yeah. After a while, look down the bar at the bartender. I say, hey, what do you want? One bourbon, one sky, one beer. Well, the girl, she gone tonight. I haven't seen the girl since night of full last. Wanna get drunk and get her on my mind. One bourbon, one sky, one beer. Then I sit there, getting stoned, mellow, feeling so good, so good. I look down the bar at the bartender. I say, hey, hey, what do you want? One bourbon, one sky, one beer. Well, the girl, she gone tonight. I haven't seen the girl since night of full last. Wanna get drunk and get up on my mind. I want bourbon, one sky, one beer. Then I sit there drinking. After a while, I raise my head, looked on the wall at the clock on the wall. By that time, 1:45. Last call for alcohol. I look down the bar at the bartender. I'm like, hey, what do you want? One bourbon, one scotch, one beer.
Et on retrouve Guy de la Fédé. Tu avais encore quelques nouvelles à nous donner, je crois.
Oui, on va parler d'une forte baisse du nombre de tués. Alors, d'habitude, c'est pas nous qui en parlons beaucoup sans ceux d'en face. Et là, on va faire l'inverse, parce que pour une fois que les chiffres sont excellents, alors on parle quand même de tués. Il faut relativiser les choses. Hein. Il faut en être conscient. Enfin, je pense qu'on est tous. On sait bien que la pratique de la moto, c'est un risque. Mais là, quand même, par rapport à ce qu'on défend et à ce qu'on met en avant régulièrement, on peut trouver que la communication officielle, donc gouvernement, CNSC, enfin, etc., toute la clique des ligues diverses et variées, ne font pas beaucoup de publicité, contrairement à une augmentation de 1 ou 2% où on se fait flinguer en vol à chaque fois quand ça dépasse un petit peu. Et là, c'est une baisse historique parce que on a épargné 110 vies pour les motocyclistes. Et 650 décès à moto en une année, c'est le chiffre le plus bas jamais enregistré. Et donc on n'a pas entendu de com, ou alors elle était bien planquée, on n'a pas entendu de com qui félicitait sur ces résultats. Alors on va certainement nous dire que c'est dû à la politique de répression, etc.
Ou à la météo très mauvaise.
Voilà, et donc il y a certainement un petit peu de tout ça, mais si on prend les choses par le bon bout, peut-être qu'on va parvenir à faire quelque chose, et on essaye de le démontrer à chaque fois. Alors, dans ce panorama, on peut citer que il y a des chiffres qui sont pas bons, c'est par exemple les cyclistes, et où on sait bien, enfin moi quand je me balade à Lille, notamment le soir, il y a des moments, enfin c'est ahurissant quoi, par rapport à ce qu'on peut voir. Et donc les chiffres, c'est une mortalité donc en augmentation de 9%, enfin près de 10%, 9,9%, une mortalité chez les piétons qui est en baisse de 7%. Et la problématique, c'est toujours celle-là, c'est la stigmatisation qu'on peut faire et non pas s'intéresser aux vraies mesures et à ce qui pourrait améliorer les choses. Alors, là, une constante demeure, la surreprésentation des deux roues motorisées dans la mortalité routière. 23% des personnes décédées sur la route le sont en deux roues et qui représentent soi-disant que 3% du trafic. Donc on peut espérer, et Christophe en parlera tout à l'heure, il y a le SNS qui est relancé, et Patrick Jacquot, donc, qui a été nommé, on en avait parlé le mois dernier, qui a été nommé président d'une des commissions. Donc on espère qu'on va toucher quand même un peu la terre par rapport aux mesures qui pourront être prises et les orientations qui pourront être données, ce qui n'était pas toujours le cas, où on a l'éthylotest, on en a parlé en début d'émission, voire le dispositif réfléchissant. Donc on va essayer de travailler de manière simple sur le sujet, et de manière simple et efficace. Alors on peut noter au passage et répéter que le dispositif réfléchissant, donc brassard, chasuble, etc., le dispositif réfléchissant est abandonné. Il nous a été donné de voir des communications, on va dire, des publications, y compris de la part d'assureurs qui sont censés quand même
moto.
Être d'assureurs moto, ouais. Qui sont censés quand même être un peu
au point sur
au
la
fait,
législation,
voilà, de la législation. Et donc on voyait qu'il y a
des aberrations,
des aberrations,
hein, des conneries, il faut le dire,
voilà. Et qui confirmait que la loi était passée. Donc on confirme bien, le dispositif réfléchissant est abandonné définitivement, la loi a été abrogée, et y compris pour les candidats au permis, où il pouvait y exister un doute. Donc y compris pour les candidats au permis, il n'y a plus lieu d'avoir de dispositif réfléchissant spécifique, or le chasuble que portent les moto-écoles sur la route, mais ça c'est classique, et c'est depuis longtemps. Donc voilà un peu le développement sur ce point de la baisse des statistiques.
Sans transition, on pourrait peut-être rapidement reparler du nouveau président là, du CNSR. Alors, qui est motard aussi d'ailleurs.
Donc en fait, Guy vient de le dire, Patrick Jacquot, PDG de la Mutuelle des Motards et président du groupement des entreprises de mutuelles d'assurance, vient d'être nommé donc à la tête du CESR, enfin de la commission, pardon, la commission de roues, donc du Conseil national de la sécurité routière, qui a été réactivé par Manuel Valls. Et donc c'est tout à fait intéressant parce que là on a quelqu'un d'expérience, donc motard pratiquant, et également connaissant bien le risque moto, puisqu'il l'assure.
En plus, il a bon goût, il roule en triomphe. Oui.
Soulignons-le.
Qu'est-ce qu'on fait pas pour s'abonner.
Et on contrôle, d'ailleurs, il y a les bottes, tout ça, de la graisse, de l'huile, je sais plus trop.
Voilà. Donc effectivement, pour le monde motard, on peut que se réjouir de cette nomination. On a là quelqu'un qui va prendre les sujets d'actualité et y apporter au moins des éléments de réponse, en espérant qu'il ait force de conviction. Et donc ça, c'est tout à fait encourageant.
On va passer un petit morceau de musique et on se retrouve tout après. Comme vient donc de nous l'annoncer et de nous rappeler même notre ami Guy de la Fédé, le brassard, donc c'est fini, on dit non. Hein. Par contre, l'airbag, on dit peut-être, Christophe.
Alors oui, il se trouve que je reviens du salon de Bruxelles et effectivement au niveau européen, on peut voir déjà la pratique de la moto dans la biker parade avec des gilets fluo, des casques fluo. On n'en voit pas trop en France, mais quand vous passez la frontière, on en voit de plus en plus. Donc c'est déjà, quand c'est adopté librement, on voit que les choses passent. Alors l'airbag, effectivement, t'en parles. Il y a un dossier donc dans Motomag qui dit l'airbag peut-être. C'est-à-dire que le brassard a vécu, qu'est-ce qui peut nous arriver avec l'airbag? Alors il faut savoir aujourd'hui que les gendarmes qui l'utilisent l'apprécient. Et donc il y a une réflexion qui est est-ce qu'un jour, on pourrait voir l'airbag généralisé et obligatoire. Alors, déjà, au niveau des coûts d'acquisition, aujourd'hui, c'est un sérieux frein puisque ça coûte 500 euros. Bon, alors c'est un prix moyen, mais celui, en l'occurrence, qui est porté par les gendarmes, c'est déjà un frein à l'équipement des forces de gendarmerie. Et puis, j'apprécie la remarque du délégué de la FFMC qui dit « Proposer l'airbag à un motard, c'est vendre un jacuzzi à quelqu'un qui n'a pas l'eau courante. » Bon, une autre personne, d'ailleurs, Marcel Bertrand, chargé de mission de sécurité routière à la FFMC, dit « Oui, l'airbag, sans doute, mais dans la mesure où il est adopté librement par le conducteur de deux roues. » Et effectivement, on en discutait hors antenne, c'est donner la priorité à l'équipement de première protection, que sont les gants, les bottes, tous les vêtements à protection renforcée et qui constituent certainement le minimum dans la mesure où on voit trop de gens qui arrivent à la moto ou au scooter et qui n'ont pas les protections adéquates. Donc, c'est pas fait, mais la réflexion est en cours et il faudra avoir Guy, notre.
Comment ça va se dérouler, voilà, parce que
au niveau juridique, toi qui suis précisément l'évolution des choses,
voilà. Tu veux dire, Guy, qu'on pourrait nous imposer un équipement obligatoire?
Alors,
c'est ça.
Si vous suivez l'actu, vous avez peut-être vu que le rapport Guyot, enfin que Guyot, le préfet Guyot, a déposé deux rapports, enfin son rapport plutôt, et qui comporte deux parties. C'est la circulation interfile et ils appellent ça l'EPI, l'équipement de protection individuelle. Et donc, ce que l'on craint, c'est qu'effectivement, on prenne le biais de l'obligation pour apporter de nouvelles mesures. Et Christophe l'a parfaitement décrit. Et nous, on dit, il faut laisser libre. Enfin, il faut faire plutôt une politique, avoir plutôt une politique d'incitation, parce que le gap est grand. Avant d'arriver à équiper tout le monde de l'airbag, il y a tellement d'étapes à franchir que on va peut-être y aller étape par étape. Et effectivement, c'est inciter les gens à porter en toute saison et en toutes circonstances, quand ils roulent à moto, le minimum de protection. Et on voit bien l'été, hein, même chez nous, très chaud. Mais
c'est quand même plus facile chez nous de rouler en cuir que dans le sud de la France.
Voilà, et dans le sud, on comprend que ce soit pas facile, mais néanmoins, ça apporte quand même un plus dans la sécurité. Donc avant d'obliger tout le monde à avoir le top maxi de la protection, qui serait peut-être bien. Enfin bon, on peut croire que l'airbag, même si aujourd'hui il est perfectible, c'est déjà pas mal, c'est mieux que rien. Et plutôt que de rendre obligatoire ça, procédons par étapes, incitons les gens à s'équiper et à porter, parce que c'est pas le tout. Faudra peut-être après, on en avait parlé il y a quelques mois, me semble-t-il, si j'ai bonne mémoire, l'équipement aujourd'hui, ou moins certains équipements de ce type-là, nécessite une installation sur chaque bécane. Si vous avez plusieurs bécanes, il faut faire en sorte qu'il y ait le dispositif qui va bien sur la moto. Vous avez le gilet avec la prise qui va bien, mais il y a le dispositif qui doit être monté sur chaque machine. Et là, ça augmente encore le coût, quoi. Donc avant d'arriver à ces étapes-là, il y a certainement beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à mener pour améliorer la sécurité et diminuer le nombre de morts en ayant des prétentions, entre guillemets, un peu moindres.
Et les moteurs de la police sont pas prêts de l'avoir, alors s'il faut un dispositif aussi compliqué. Parce que j'ai vu il y a pas longtemps que certains policiers avaient fait grève, parce qu'ils en avaient ras-le-bol, à cause de leur casque qui était plus homologué, tellement ils étaient vieux, ils avaient pas les moyens de les changer.
J'ai vu ça, je sais plus sur quoi.
On en parle.
C'est dans Motomag.
Oui.
Voilà.
Sachant qu'un casque pour un usager moyen, c'est 5 ans, c'est sa durée de vie, mais au bout de 3 ans, souvent, les leurs sont cuits. Et donc, effectivement, il y a des photos qui sont assez éloquente dans le
genre. Avec l'écaille du casque, la peinture, qui, la peinture qui s'écaille en fait.
Ouais, c'est quand même... Ou la mousse qui est tellement usée qu'il a pris deux tailles au-dessus. Quoi, et du coup, le truc qui va dans tous les sens. Enfin, c'est complètement aberrant. Quoi.
Donc voilà, ça montre bien la difficulté et le fait d'obliger, ben, ça ne va pas forcément améliorer.
Ce qu'on peut peut-être voir, c'est quand même les équipementiers s'adapter. Bon, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une veste néerlandaise qui est sortie gris-souris, mais qui, sous l'effet des projecteurs, devient blanche. Mais blanche fluorescente. Hein. C'est impressionnant la nuit. Hein.
Et il ne ferait pas un modèle noir avec une tête de mort qui pourrait changer
Non. Il y a bien quelqu'un qui va trouver la façon de réaliser ça. Mais c'est vrai que l'intégration dans les équipements et probablement leur standardisation devrait permettre, mais ça, ce n'est pas pour demain, hein, de faire baisser les prix. Mais quand on voit quand même les innovations technologiques, on se dit que chez les équipementiers, ils y réfléchissent.
On devrait pouvoir arriver à des choses comme ça, et c'est peut-être justement le résultat que pourrait obtenir Patrick Jacquot, donc au sein des CNSR. Faire en sorte que les équipementiers soient complètement associés et partie prenante, en fait, de la sécurité.
En plus, ce qui est pas mal, c'est que nous sommes une région textile, hein, qui a bien sûr évolué. C'est le textile technique maintenant chez nous. Et on a le CETI, un organisme qui est ouvert il n'y a pas très longtemps. Et on pourrait tous ensemble s'associer pour avoir de l'équipement performant. En attendant, on va passer un petit morceau de musique. Vas-y, Roland.
Let you know that it ain't good for my health.
Ça, c'est du rock'n'roll sur Radio Campus. Et on retrouve en direct notre ami Lamiche de l'Enduro du Touquet. Allô, Lamiche.
Oui, bonjour à tous. Effectivement, en direct donc du Touquet. Effectivement, alors aujourd'hui, on peut vous dire que la météo, encore une fois, jouait des tours hier pour la course des quads. Effectivement, l'année dernière, c'était la neige. Et cette fois-ci, en fait, c'est le vent, le fort vent qui a fait monter la marée un peu plus haute, et la course des quads a dû être interrompue, ce qui posait problème aux organisateurs pour faire un classement. Aujourd'hui, on pensait que la météo serait identique, et apparemment le vent est tombé. Donc pour la course qui va partir pour les coureurs, hein, pour les pilotes qui vont partir à 13h, ça devrait être correct, et les 3 heures de course devraient avoir lieu normalement. Voilà, donc forcément on peut s'attendre à 5 pilotes qui peuvent gagner, hein, cette 8e Enduropale, hein, Jean-Claude Mousset, Nicolas Aubin, Adrien Van Boveren, Sib Ramon ou Mico Petitsec. Bon, je donne un petit peu de l'ambiance aujourd'hui, enfin hier il n'y avait pas trop de monde quand même, hier soir il n'y avait pas trop de monde au Touquet, dans la ville du Touquet. Par contre ce matin, là ça commence à se remplir, et on voit que là je suis près des pilotes, du parc pilote, et la pression commence à monter. Voilà, et je vais donc la météo, effectivement, il fait beaucoup moins froid hier. C'était, il y a vraiment un vent très très glacial, et c'est ce qui a causé ce problème de marée. Et donc ça devrait aujourd'hui être beaucoup mieux. Si aujourd'hui, je vais vous laisser avec l'interview de Gilles Fagnin.
Tout à fait, c'est ça.
Le pilote officiel Yamaha.
Qui a le dossard numéro 38.
C'est ça, oui, qu'on a rencontré vendredi. Hein. Voilà, et l'ambiance est sympathique aujourd'hui. Il n'y a pas trop de... les gens sont curieux. Et puis, tout se passe bien ici au Touquet.
Formidable, merci Lamiche. Nous allons retrouver l'interview d'Olivier Pain, le pilote officiel de Yamaha.
Bonjour, alors je suis ici, on est ici à la conférence de presse pour l'Enduropale, juste avant l'épreuve, 2 jours avant l'épreuve. Et puis je rencontre Olivier Pain. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour.
Alors tu rentres fraîchement du Dakar, où tu as quand même, il faut le dire, brillé, quoi. Et on a eu l'impression cette année que c'était une épreuve extrêmement compliquée.
Ouais, non, mais c'est vrai, enfin, c'est le Dakar aussi, hein, tout est dans le nom. Si on s'attend à une course facile, et c'est faux, quoi. Donc tous les ans, ils nous trouvent des nouveaux passages, des petites choses de navigation. Enfin, ça reste le rallye le plus dur au monde, et c'est ça qui nous passionne, et c'est pour ça qu'on va au Dakar aussi. Hein.
Pendant longtemps, on a pensé que tu aurais pu finir au moins sur le podium.
Ouais, c'est vrai que je m'étais bien préparé. Mon objectif des départs, c'était le top 5. Après 2 9e places sur le Dakar, je veux y aller par étapes. Et je savais que j'avais une bonne moto avec l'YZF 450 Yamaha. Et voilà, ça fait 3 ans que je roule avec. J'ai un bon soutien de Yamaha France, une équipe derrière que je connais bien. Donc s'est mis en place naturellement, physiquement. C'était bon, et la tête aussi, donc on s'est fait vraiment plaisir, et voilà, donc après je me suis retrouvé en tête rapidement, et j'ai prouvé qu'aussi, non seulement de la prendre pas sur un prologue, je pouvais la tenir et creuser un peu l'écart, mais ensuite je me suis fait avoir par, pour moi, la discipline où je suis le meilleur, un peu dans ma qualité, on va dire, en rallye, c'est la navigation. Mais c'était une journée compliquée avec de la pluie, et on était dans un rayon avec pas mal de boue, tout ça, et une case un peu ambiguë, et voilà, je fais l'erreur, c'est moi qui faisais la trace, mais tout le monde a suivi derrière. Donc, mais bon, ça fait partie du rallye, et puis après, les mauvaises journées se sont enchaînées.
Bon, alors, c'est partie remise, et alors ici, il paraît que t'es venu faire la course.
Ouais,
c'est incroyable.
Bon, non, je pense pas que c'est incroyable. Quand on est passionné,
Mais t'avais jamais participé avant?
Si, c'est mon 8e ou 9e participation. Ma meilleure place est 24e. L'année dernière, j'étais là sous la neige. C'était vraiment exceptionnel. Bon, je suis parti vraiment loin parce que je me suis fait prendre dans le bouchon à cause d'une petite chute d'entrée quand on est rentré dans le mou. Et je suis passé 190 et quelques. Je remonte 41. Mais bon, voilà, j'ai un niveau sans s'entraîner, sans rien, juste avec les acquis du Dakar. Quand on rentre dans le top 30, après, et de plus en plus avec le championnat de sable, le championnat de France de sable, c'est de plus en plus homogène. Tous les pilotes de Grand Prix qui viennent se frotter un peu aux spécialistes. Donc voilà, si on arrive à atterrir les 20.
Alors pour te suivre dans la course, c'est Dossard 48, c'est ça, tu
38, 38,
38, 38, ouais. 38. Et donc, qu'est-ce que tu espères faire comme résultat?
Ouais, c'est bah, voilà, entre 20 et 30. Et si je peux améliorer mon score de 24, ce serait très bien. Mais aux alentours des 20, je pense que j'aurais fait une très bonne course pour moi. Et, mais avant tout, se faire plaisir. Je suis là pour la fête du Touquet, moi. Et, mon objectif, c'était le Dakar. Maintenant, j'ai juste à me faire plaisir et puis voir un peu tous les gens qui sont là, qui ont suivi le Dakar, qui me félicitent. C'est ça ma récompense. Et le Touquet, c'est plus une récompense pour moi que vraiment un objectif sportif.
Et c'est carrément... différent la course du Touquet par rapport au Dakar, c'est vraiment des choses très différentes. Pourquoi est-ce que tout le monde veut venir au Touquet pour faire cette course?
Je pense que c'est une fête populaire, ça emmène beaucoup de spectateurs, faire une course d'endurance et même un départ de motocross à 1000 de francs sur une plage, c'est unique pratiquement au monde. Et voilà, ça fait partie du patrimoine français comme le Dakar et c'est ce qui nous fait vibrer. Et moi, c'est depuis tout petit, je suivais le Dakar, j'étais sur des prologues, je suivais le Touquet aussi. Et quand je suis venu, je crois que c'était en 91, de voir, j'étais au pied du Goulet là-bas. J'ai dit l'année prochaine, j'ai 18 ans, je serai là. Et puis tous les ans, dès que j'ai pu le faire, je l'ai fait. Et le Dakar, un jour, c'est la même chose. Je me suis dit, j'aimerais bien le faire au moins une fois. Et puis on se fait prendre au virus et puis on vient tous les ans. C'est vraiment une fête.
T'as réalisé un rêve de gosse, en fait.
C'est ça, on continue. Et puis tant que je pourrai, j'essaierai de continuer. Tant que le plaisir est là, on vient. Et puis quand il sera plus là, ben, on viendra en simple spectateur, je pense. Et voilà.
Dernière question, qu'est-ce que tu fais au long de l'année? Alors, t'es engagé dans un championnat?
Non, pour l'instant, je ne sais pas. Maintenant, avec ce bon Dakar, j'espère pouvoir construire quelque chose. Et avec Yam, s'ils veulent continuer, si ça les a motivés à se réinvestir un peu dans le Dakar pour au moins déjà le podium. Et c'est sûr, à plus longue échéance, la gagne.
On va te revoir l'année prochaine au Dakar.
Ben, j'espère. Enfin, en tout cas, c'est sûr que quand je suis descendu du train, je ne savais pas si j'allais repartir ou pas, mais tout le monde a décidé que je repartais chez moi, en tout cas. Et c'est ça qui était vraiment plaisant. Et voilà, moi, à côté, je suis encore pilote amateur, je suis officiel Yamaha France. Mais à côté, je travaille dans l'entreprise familiale. Donc aujourd'hui, je gagne absolument rien avec la moto. Donc il faut être aussi raisonnable. Maintenant, on va voir si cette nouvelle notoriété, on va dire, va faire... retomber la confiance de mes partenaires en m'aidant un peu plus, en pouvant détacher un peu de l'entreprise pour me concentrer un peu plus sur ma préparation physique et arriver en 2014 avec des objectifs. Forcément, maintenant ça va être le podium, maintenant qu'il y en a goûté, et tout mettre en place pour, si ça veut le faire, au contrario de cette année, pourquoi pas rester sur le podium et sur la plus haute marche comme cette année ça a commencé.
En tout cas, merci, tu nous as bien fait rêver à distance, évidemment, parce que c'est un peu trop loin pour nous, mais en tout cas, on a suivi tes exploits et on n'est pas fiers d'avoir un Français comme toi.
Merci à vous et puis à tous ceux qui nous suivent. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment ma récompense aujourd'hui. Et on va essayer de continuer à faire plaisir à tout le monde. Et c'est bien, c'est dans les moments de galère, comme sur le Dakar, il en arrive souvent. On pense à tous les gens qui sont derrière. Je vois les messages sur le blog, sur mon Facebook. Et c'est comme ça qu'on avance sur un Dakar et on ne lâche pas les bras.
Merci.
Vous êtes bien toujours sur Radio Campus. Un auditeur vient de nous appeler pour nous demander d'apporter une précision dans notre propos sur les nouveaux permis en parlant de rétroactivité, Christophe.
Oui, alors effectivement, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais l'application au 19 janvier dont je parlais concernant la possibilité de certains permis donc de moins de 21 ans de ne plus pouvoir user de leur moto après le 19 janvier parce que la moto aurait changé de catégorie. Donc il n'y a pas de possibilité de rétroactivité d'une loi, ça c'est une directive. Et donc en l'occurrence, la FFMC avait déjà alerté il y a un peu plus d'un an les ministères sur cette question-là. Et il n'y a pas eu de réponse. Donc on peut penser, et c'est certainement ce que l'auditeur voulait nous faire rappeler, que la rétroactivité ne s'appliquera pas. Mais néanmoins, il faut quand même que le ministère précise les choses pour éviter ces vides juridiques.
Voilà,
alors, ce qui est, ça je l'ai dit par contre tout à l'heure, la Mutuelle des Motards s'en est inquiétée parce qu'elle a bien sûr la gestion d'un parc de clients motocyclistes importants, mais il n'est pas de même de probablement tous les assureurs. Hein, donc il y a des assureurs qui ne vont pas se pencher sur cette question-là et qui ne vont pas éclairer, je dirais, leurs adhérents ou leurs sociétaires le cas échéant. Alors je voulais aussi revenir sur, on a parlé tout à l'heure du contrôle technique. Évoquer donc une décision qui a été prise au mois de décembre par les ministres des Transports européens qui se sont prononcés contre l'application d'un contrôle technique pour les motos. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas encore passé, mais il faudra quand même que les ministres convainquent les députés européens de ne pas voter cette loi donc du contrôle technique obligatoire pour les motos, sachant qu'il était prévu aussi un contrôle obligatoire tous les ans pour les véhicules de plus de 6 ans. Hein, donc ça, c'est pour le monde automobile. Donc on peut penser... On a un député néerlandais qui est lui-même pratiquant donc de la moto en Harley-Davidson, M. Wim van de Kamp, qui fera vraiment tout son possible pour convaincre ses collègues d'aller dans le sens du vote des ministères du transport pour éviter que le contrôle technique donc, soit rendu obligatoire au niveau européen.
Voilà, donc l'étape, hein, c'est ce qu'on avait déjà mentionné. Effectivement, la prochaine étape, c'est à la mi-année et c'est le vote par les députés européens. Donc nous tous, hein, et la FFMC travaille dans ce sens-là, c'est d'aller convaincre les députés européens de s'opposer à ce contrôle technique, en fait. Ce sera la dernière étape, l'ultime étape à passer.
Voilà. Alors revenons donc sur le sommaire de Moto Magazine de février. Alors une nouvelle attristante, vous avez tous appris le décès de Jean-Claude Olivier. Donc c'était le 12 janvier dernier sur l'autoroute du Nord. Un camion fou est venu lui couper la route et il a trouvé la mort dans un accident de voiture. Alors Jean-Claude Olivier, c'est un illustre homme de la moto pour l'aspect chef d'entreprise, mais aussi pour l'aspect pratique, hein, puisqu'il a concouru sur de nombreux Dakar. Il a laissé une image célèbre d'un wheeling qu'il avait fait avec sa XS Yamaha 1100 pour démontrer sa capacité au journaliste qui se trouvait à l'essai au Maroc, qui le traitait de la moto de camion. Hein, et donc cette photo a été tellement appréciée que même Yamaha en a fait un support publicitaire. Hein, donc chapeau l'artiste, merci pour en tout cas d'avoir fait vivre ces instants magiques au monde de la moto et puis surtout une carrière brillante de qui a commencé en 64 et qui s'était achevée en 2010 au moment de sa retraite. Alors j'ai relevé pour les amateurs de motos de course la sortie d'un DVD Fast Test, donc en version française, donc au plus près de la course, et donc pour tous ceux qui s'intéressent à la compétition, des images superbes à découvrir sur ce DVD. Le portrait d'homme du mois, c'est le dernier pilote français de High Speedway. Alors certainement que Guy pourrait nous en parler beaucoup mieux que moi. J'ai simplement relevé que à l'âge qu'il a, pas dire que c'est un vieux, il a mon âge, hein, 55 ans.
quand même.
Il veut passer la main. Il avoue quand même qu'il va continuer pendant 5 ans. mais qu'il aimerait bien pouvoir passer la main à quelqu'un. Donc il y a une place à prendre, parce qu'il est le seul compétiteur de Ice Glass. Alors ça implique quelques contraintes. Hein. Il fait 8 compétitions par an, mais c'est 20 000 km. Hein, quand même.
Il faut aimer le froid, c'est ça ?
Voilà.
C'est impressionnant aussi, avec les pneus. Wow.
Donc,
Il faut aimer les clous.
Ah, il faut voir les clous. Hein. Il y a la photo dans le journal, est assez étonnante. Bon, je passe rapidement là sur tous les essais et les présentations de modèles, parce qu'il y en a un grand nombre, hein, pour m'attarder simplement sur la Calif de Guzy, qui sort aujourd'hui en 1400. Donc là, on est dans les gros bras. Hein, donc cette moto qui a été rendue illustre par les policiers de Los Angeles, hein, d'où son nom, la Calif.
Elle est magnifique. Ouais. Mais je l'ai vue en vrai, elle est encore mieux qu'en photo. Hein. Franchement, voilà. Elle est vraiment très très belle.
Alors dans le même esprit, gros bras, bah, le custom tendance avec la Suzuki C1500 Intruder, donc aussi tout de noir vêtu. C'est la couleur à la mode, hein, apparemment. Là, on sort beaucoup de motos.
Le bad boy, le retour.
Exactement. Alors, les petites cylindrées, ça a été mon dada pendant quelques années, donc les quarts de litre. Là, qui sort, un comparatif qui est présenté, donc sous quatre thèmes, façon roadster pour la KTM, sportive en Kawa, routière en Suzuki et trail Honda. Donc vous découvrez comment faire de la moto plaisir avec économie. Et puis une moto que j'avais découverte et que je trouve sublime, c'est, alors malheureusement ils arrêtent la production, donc là maintenant c'est de l'occasion, c'est la Honda VT 1300 CS, donc un custom à l'esprit lowrider.
Son petit nom c'était la Fury, je crois, c'est ça ?
La Fury, voilà, et pour moi c'est déjà un collector, hein. C'est certainement une moto qu'on verra
assez particulier quand même
effectivement là. Alors, des infos pratiques, Triumph, tiens, je vais parler Triumph, t'intéresser, et puis ça me servira d'introduction sur l'essai conso motard. Donc, un rappel de Triumph, la Street Triple et la Speed Triple, qui sont rappelés pour des problèmes d'optique de phare qui pourraient casser sous l'effet de la chaleur.
Ah, ils auraient pas dû changer le... Avant, c'était des jolis phares ronds, tu vois, C'était apparemment plus efficace, hein, les trucs en amande, là, c'est pas terrible. Hein.
Voilà, alors si jamais vous vous trouvez sans éclairage, bah justement, il y a un test d'éclairage additionnel dans Motobag de ce mois-ci, qui fait un comparatif entre les éclairages LED, xénon et halogène. Bon, problème, c'est que sur les 10 présentations, il y en a 6 qui ne sont pas homologués. Bon, déjà, mais par contre, alors c'est pas un coup de griffe que je fais contre l'article, mais par contre, on sent quand même que c'est une tendance vers des nouvelles technologies qui pourraient aboutir bientôt vers des produits de qualité. Alors ça reste quand même peu accessible, ça reste cher. D'ailleurs, beaucoup sont utilisés dans les compétitions. Forcément, ils ne sont pas homologués, donc ça reste privilégié pour des courses de nuit éventuellement. Mais c'est intéressant quand même de voir l'analyse qui est portée sur ces différentes technologies. Dans la rubrique voyage, eh bien, on est en hiver. Donc il y a deux articles qui sont consacrés à la Torren Treffen Ledel Road, donc sur une route des Alpes autrichiennes, pour monter à 1750 mètres à 14% de pente. Côte. Donc là, il faut y arriver.
Il faut mettre des chaînes.
La photo, ça te rappellera un souvenir. C'est une Oural.
Tout à fait. Tout à fait, le sidecar.
Exactement. Il y a un an, notre charmant Luc, là, qui faisait le singe dans un Oural qui montait vers l'enduro du Touquet.
Avec Laurent, tout à fait.
Et puis, dans la page région, eh bien, un retour sur le plateau des Villevaches. C'était le 9 et le 10 décembre dernier. Et il y avait quelques représentants de Kikinkou,
tout à fait.
Qui étaient. Un cocorico ou un anniversaire, si on peut dire, le 10 millième adhérent de la FFMC.
Ah oui.
Ça, c'est quand même un cap.
Ça commence à causer. Hein.
Et puis, pour conclure, l'agenda du mois prochain, donc l'Assemblée régionale de la Mutuelle des Motards, ça sera le 5 mars. Pécancourt, qu'on ne présente plus, donc le 9 et le 10 mars. Et le 10 mars aussi, l'île Toutes à Moto, donc à 14h. L'endroit sera précisé certainement par les réseaux sociaux.
Vous retrouvez ces infos dans le calendrier des motoclubs publié par Kikinkou, distribué sous format papier dans tous les endroits fréquentés par les motards de la région Nord-Pas-de-Calais et bien ailleurs. Et vous l'avez également au format numérique sur notre site k1c.free.fr. J'entends le générique qui commence. On va commencer à dire au revoir. Guy.
Eh bien, merci de cette invitation. Et puis, si vous le voulez, au mois prochain, comme d'habitude.
Mais avec plaisir,
avec joie.
Christophe.
Eh bien, moi, je donne rendez-vous effectivement le mois prochain. D'ici là, j'ai oublié dans l'agenda une bourse de moto rétro à Wies, donc en Belgique. J'y étais il y a 2 ans, j'y retourne cette année, donc le samedi et dimanche, pour Moto Magazine. Et puis, il y a les hivernales, bah, c'est le moment, donc n'hésitez pas, profitez des occasions qui s'offrent à vous.
Ah oui, et si vous allez à l'enduro, n'oubliez pas, il y a des relais Calmos, on en a un dans la Somme et 2 dans le Pas-de-Calais, je crois.
Absolument, Saint-Paul-sur-Ternoise, à l'intersection de la route nationale 39 et de la RD 916, sur l'autoroute A16, l'aire de repos des deux caps, et puis sur la baie de Somme, l'autoroute A16 également, sur l'aire de la baie de Somme, à 5 km voilà. d'Abbeville.
Ça vous permet de prendre faire votre temps, pause. De faire une petite pause, boire un café pour vous réchauffer. Voilà. Attention sur la route, attention aux autos et à dimanche prochain.